It's one small step for man, one giant leap for mankind.
One giant leap for mankind. Un petit pas pour l'homme, pas de géant pour l'humanité. C'était il y a 50 ans, en fait, ça fera 50 ans dimanche, le 21 juillet, en 1969. Neil Armstrong posait le pied sur la Lune. À quand les prochains hommes sur la Lune? Je ne sais pas, mais on va discuter de cette première fois sur la Lune avec l'astrophysicienne et coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal, Nathalie Ouellette. Nathalie Ouellette, bonjour.
Bonjour.
Alors, surprise pour nous, pour l'équipe, quand vous êtes arrivée, parce que vous êtes toute jeune. Et on, je sais pas, on dirait que quand on voit une astrophysicienne, on s'imagine quelqu'un là, qui a...
Un homme, souvent, ben, plus âgé.
Peut-être aussi. Et... pour vous, c'était un rêve d'enfant, là.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu vraiment la piqûre pour l'astronomie, la science en général, quand j'étais toute petite. Et j'étais vraiment chanceuse aussi parce que mes deux parents, c'était des ingénieurs. Donc, à la maison, on avait toujours beaucoup de science. Et puis, moi, je suis née à Montréal. Donc, c'est pas le ciel étoilé, le plus étoilé qu'on a. Mais j'ai été beaucoup encouragée de lire des livres, de regarder des documentaires sur la science, l'astronomie. Donc, j'ai toujours voulu en apprendre plus sur l'univers.
Est-ce que vous avez aussi rêvé d'aller dans des missions spatiales?
Oui, en effet. Et pendant la dernière ronde, en 2016, j'ai songé à appliquer. Mais j'étais en train de finir mon doctorat. Donc, je me suis dit, OK, je vais finir mon doctorat et la prochaine fois, je vais appliquer.
Ouais. Combien de langues vous parlez? Parce qu'en général, ils parlent tous 7-8 langues, les gens qui vont...
En effet, disons, j'en connais 2,5.
Ah,
donc,
bon.
il faut que j'en accumule encore.
C'est oui. Bon, ça laisse le temps.
Ouais.
Alors, reportons-nous à il y a 50 ans. Le 18 juillet, on peut imaginer qu'ils étaient à mi-chemin entre la Terre et la Lune.
En effet,
à bord d'Apollo 11.
Ça prend 3 jours pour se rendre à la Lune. Donc, ça fait déjà une journée environ que la fusée aurait lancé. Ils seraient dans leur petite capsule sur leur chemin vers la Lune en ce moment, il y a 50 ans.
Qu'est-ce que ça vous fait de repenser, parce que vous êtes trop jeune pour l'avoir vu. Moi, je me souviens de l'avoir vu. J'étais pas ben vieille, mais je me souviens, c'était l'événement planétaire. C'était tellement impressionnant. Mais ça a été important pour l'humanité.
Oui, en effet, pour l'humanité en entier. Pas seulement pour la science, mais l'humanité en entier pour voir qu'on n'a pas vraiment une limite à notre portée qui arrête au ciel. On peut aller au-delà de notre atmosphère. Et puis, c'est sûr que je n'ai pas vécu le moment en 1969, mais j'ai eu un petit moment intéressant la semaine passée. J'étais aux îles Canaries pour une conférence scientifique. Ils ont un beau ciel étoilé là-bas et c'était la pleine lune. Et pendant la nuit, sortie dehors, j'ai regardé la Lune et j'ai vraiment pris un moment pour réaliser que cet astre qu'on prend un peu pour acquis tous les soirs, il y a déjà eu des hommes sur cet astre.
C'est vraiment
hallucinant quand on y pense.
Totalement. Totalement. Et de l'avoir vu, c'est ça. Moi, quand j'étais petite, on parlait tout le temps du bonhomme qui s'y a du bois sur la Lune, parce qu'avec les ombres, ça peut donner parfois cette impression-là. Puis c'était... Mais là, tout à coup, de savoir qu'il y avait vraiment des personnes. De quelle façon ça a changé le monde et changé toute la suite de l'exploration spatiale?
Je pense que ça a ouvert une nouvelle porte. Savoir qu'on pouvait accomplir ce fait d'aller sur un autre monde, ça voulait dire, OK, ça, c'est un nouveau début. Maintenant, on peut songer à aller sur une autre planète, aller plus loin dans le système solaire. Et ça a vraiment... le monde de l'exploration spatiale a explosé à ce moment-là. Et maintenant qu'on pense que c'est pas seulement des agences spatiales gouvernementales, il y a des compagnies privées, il y a du tourisme spatial qui s'amorce maintenant. C'est toute une explosion dans l'exploration spatiale qui a vraiment commencé avec ce moment-là.
Moi, j'avoue, étant pas une spécialiste du domaine, que j'avais un petit peu oublié qu'il y a eu 12 hommes, en tout, qui sont allés sur la Lune,
mm-hmm.
jusqu'en 72. Est-ce que ces autres missions-là, après Apollo 11, étaient tout aussi importantes? Est-ce qu'on est allé, on est allé beaucoup plus loin qu'avec Apollo 11?
Il y avait des missions et des buts et des objectifs scientifiques différents pour chacune des missions, mais c'est sûr que tout le monde se souvient de la première fois,
ça c'est clair.
Le plus. Mais chacun de ces 12 hommes-là qui sont allés sur la Lune ont contribué de façon vraiment incroyable à la science et à l'exploration spatiale. Et on espère continuer un peu dans ce sens-là maintenant.
Et ma prochaine question, pourquoi tout a arrêté en 72, parce que depuis 72, plus personne n'est allé sur la Lune.
En effet, je pense qu'à ce moment-là, on commençait à regarder ailleurs un peu. C'est quoi qu'on voulait faire? Explorer d'autres mondes. On avait déjà fait la Lune. Et puis, avec le temps, ça, c'est devenu un peu plus difficile d'envoyer des astronautes en général dans l'espace. Donc, en ce moment, on est dépendant de l'agence russe pour envoyer des astronautes. Par exemple, David Saint-Jacques, qui vient de faire son retour sur Terre, a dû aller au Kazakhstan voler dans une capsule Soyouz pour aller dans l'espace parce que le programme de Challenger de Columbia, où il y a eu des gros accidents avec la NASA, ils ont arrêté d'envoyer eux-mêmes leurs astronautes. Donc, les priorités ont un peu changé. La volonté de prendre des risques aussi un peu changé. Mais maintenant, avec l'apport du privé dans ce domaine-là, ça change un peu la donne. Et maintenant, la NASA peut essayer de prendre des sous-contractants privés. Donc, je pense qu'il y a un renouveau d'intérêt pour aller sur la Lune.
Ben, il faudrait parce que, oui, c'est beau d'y mettre le pied, mais il faut aller voir plus loin puis savoir ce qu'on peut développer là-bas et tout.
Oui, en effet.
Il y a encore des gens qui ne croient pas que l'homme a marché sur la Lune, que ça s'est fait dans un studio d'Hollywood, de bien caché, les conspirationnistes, les sceptiques. Mm-hmm. Et vous avez un mot à leur dire à ces sceptiques.
Oui, et
pour prouver que c'est vrai.
C'est ça. On a énormément de preuves. Et la première chose que j'aime dire à ces personnes-là, c'est que c'est bon d'être sceptique. C'est ça la science. Il faut avoir un œil sceptique quand on voit un phénomène qui semble vraiment hallucinant. Mais une fois qu'on a des preuves qui nous sont montrées et les preuves sont convaincantes, il faut les accepter et changer sa théorie. Et les preuves, on en a plein, en fait, pour prouver qu'on a déjà été sur la Lune. On a laissé des instruments qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, un des instruments qui est le mieux connu, on a laissé un grand réflecteur sur la surface de la Lune et on peut réfléchir des lasers de la Terre vers la Lune pour mesurer la distance Terre-Lune. Et on peut le faire n'importe quand. Et puis, on a aussi même des images qui ont été prises de la surface de la Terre, de tous les appareils qu'on a laissé sur la Lune. Donc, on a des preuves assez fortes.
Irréfutables,
exactement, qu'on est allé sur la Lune. Donc, c'est bien d'être sceptique et d'essayer de voir, OK, est-ce que c'est vrai ou non? Mais une fois qu'on a les preuves, il faut être ouvert à changer sa théorie initiale.
Alors, des astronautes qui sont allés sur la Lune, évidemment, Neil Armstrong est décédé. Il reste Buzz Aldrin et Michael Collins. Buzz Aldrin, qui est assez... il a 89 ans, je pense, ou à peu près.
Oui, oui.
Il paraît que c'est un caractère assez spécial. Mm-hmm. Donc, cette semaine, il t'a invité à tout ça. Oui, on peut imaginer. De toute façon, je pense que ça prend une personnalité
pour être astronaute.
Pour se lancer dans une aventure pareille, ça prend du courage aussi. Ça prend une espèce de volonté.
Oui, ça prend the right stuff, comme ils disent.
C'est bien dit, oui, ouais. C'est bien dit, en effet. Écoutez... il y a des fêtes partout, aux États-Unis évidemment, pour souligner cet événement majeur dans l'histoire spatiale. Et il y aura des fêtes aussi à l'Université de Montréal en fin de semaine. Qu'est-ce qui va se passer?
Oui, ce dimanche, on a un grand festival, une fête, tout le dimanche qui commence à 13h et qui finit à 23h. Ça va être au nouveau campus 1000 de l'Université de Montréal.
Donc, là où il a failli avoir un CHUM à un moment donné.
C'est ça. Donc, entre les stations Acadie et Outremont.
Ouais.
Et c'est non seulement une chance de fêter l'astronomie, mais aussi pour les Montréalais de mieux connaître le nouveau campus. Donc, on espère beaucoup que les citoyens des voisinages vont venir nous rencontrer. Et on a plein d'événements vraiment, vraiment amusants, des kiosques au plein air avec des activités interactives, des tables rondes, une chance de discuter avec des vrais astronomes pendant un 5 à 8, un peu le fun, avec des cocktails et puis un DJ, des observations du soleil et nocturnes, et puis un cinéma sous les étoiles. Plein de choses vraiment amusantes pour toute la famille.
Fantastique. Nathalie Ouellet, astrophysicienne, est-ce qu'en terminant, je vous souhaite d'aller sur Mars?
Peut-être, je commencerai avec dans l'espace en général. Si on m'envoie dans l'espace, moi, je suis très contente. Mars, c'est un peu délicat encore parce que peut-être que ce serait un one-way ticket, comme on dit.
Oh.
Donc, peut-être que je ne suis pas encore sûre si je veux faire ça.
C'est assez délicat, en effet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.